Les glaneurs. Les glaneurs. Les glaneurs.
Nous parlons d'un livre avec vous, Emmanuel Roquette, Fragments sur l'expression.
Oui, un livre de Abi Warburg. Alors Abi Warburg, encore personnage, je pense, assez peu connu, enfin qui est considéré un peu comme un monstre dans certains domaines, comme celui de l'histoire de l'art, de l'iconologie, etc. Mais qui est encore globalement assez peu connu. Donc avant de parler du livre, peut-être un peu parler... positionner ce personnage, qui est très intéressant. Eh ben, Abi Warburg est un Allemand donc, qui est né en 1866 dans la ville de Hambourg, héritier d'une riche famille de commerçants, de négociants et de banquiers juifs. Très très tôt, il va s'intéresser à l'histoire de l'art, qu'il va se mettre à étudier à l'université de Bonn dès qu'il a 20 ans, donc en 1886. Tout en se distanciant petit à petit de sa famille, en prenant quand même bien soin de préserver ses moyens financiers, c'est-à-dire qu'il se faisait acheter des livres qui lui permettaient d'aller plus loin dans l'étude du domaine qui l'intéressait. Et le domaine qui l'intéressait le plus, mais donc c'est l'histoire de l'art, mais particulièrement la période de la Renaissance italienne, qu'il analysait de manière assez nietzschéenne, Nietzsche étant lui-même féru de Renaissance. Alors c'est quelqu'un qui va énormément voyager, qui va voyager en Allemagne, en Italie, à Florence, etc. Et également aux États-Unis. En 95 et 96, il ira faire un voyage dans le sud-ouest des États-Unis à la rencontre d'une tribu indienne qui s'appelle les Hopi, de laquelle il reviendra en ayant changé complètement sa vision sur l'art. En 1918, il va sombrer dans ce qu'on appellera une psychose aiguë. Il sera enfermé jusqu'en 1923 et il mourra en 1929 également à Hambourg, donc son lieu de naissance. Alors, c'est quelqu'un qui a laissé une marque absolument indélébile dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la philosophie aussi, dans l'anthropologie et dans l'iconologie, donc l'étude de l'image dont il est censé être le précurseur. Voilà, donc personnage assez étrange, extrêmement pointu, on va le dire. Alors, ce livre qui vient de sortir donc la semaine passée à l'écarquillé, juste préciser aussi, il est bien entendu l'auteur d'un livre qui est très connu, qui a été édité après sa mort, qui s'appelle l'Atlas Mnemosyne et qui est sorti il y a 2 ans chez le même éditeur. Autre chose également que j'avais oublié de dire, il est l'initiateur d'une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Warburg, l'Institut Warburg, qui était au départ à Hambourg et puis qui a été délocalisée suite à la Deuxième Guerre mondiale à Londres et qui existe toujours et qui est, on va dire, la bibliothèque de référence en matière d'histoire de l'art avec près de 80 000 volumes, je pense. Donc une personnalité très très importante dans le XXe siècle. Alors ces fragments sur l'expression, eh bien, comme son nom l'indique, ce sont des fragments sur l'expression. Enfin, c'est assez simple.
Merci, Emmanuel.
Alors voilà, on peut passer à autre chose. C'est terminé. Alors non, ce sont des fragments donc qu'il a écrit entre 1888 et 1905, et qui centre sur la question de l'expression. Alors, quand il se centre sur la question de l'expression, quelle est-elle? Eh bien, il se pose finalement une double question. La première question, c'est comment en vient-on à un moment à exprimer quelque chose? C'est-à-dire à simplement prendre des couleurs, de l'huile, que sais-je, et à les jeter sur une toile, ou à prendre un bloc de marbre et à le tailler. Donc, sa première question, c'est ça. Comment en vient-on à se dire qu'est-ce que je vais exprimer? Pourquoi est-ce que j'exprime quelque chose? Et cela à la fois dans le registre du sujet, c'est-à-dire psychiquement, que se passe-t-il dans le psychisme d'une personne pour exprimer quelque chose, mais également sociologiquement et anthropologiquement. À cette question s'en rajoute une autre. À partir du moment où il y a une expression qui a été faite, comment est-elle reçue par les gens qui sont devant, qui regardent l'image, qui regardent la toile, qui regardent la peinture, qui regardent la sculpture? Donc une double question, à la fois la production de l'expression et sa réception, à la fois psychique, à la fois anthropologique et à la fois sociologique. Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile à traiter. Pourquoi? Ben parce que c'est une question qui fait, dès le départ, intervenir le sujet et l'objet. Et donc, pour voir, pour essayer de distinguer ce qu'on veut dire vraiment de l'image, il faut s'en distancier, ce qui demande énormément de mise en œuvre conceptuelle particulière en termes de langage, en termes psychiques aussi. Certains d'ailleurs pensent que le vertige que cela peut susciter, eh bien c'est cela qui a provoqué sa folie, enfin sa psychose aiguë de 1918. Alors, comment se présente le livre? Eh bien, le livre se présente sous la forme de colonnes dans lesquelles on va retrouver parfois des mots, parfois des phrases, parfois des schémas, parfois des dessins tout simplement, qui s'articulent l'un dans l'autre, qui reprécisent parfois sans arrêt la même expression, le même mot, enfin qui cherche véritablement à conceptualiser finalement ce rapport entre une image et qui la regarde. Et c'est peut-être là justement qu'on peut saisir le mieux l'importance de ce texte. Je pense que c'est un texte dans lequel tous les historiens de l'art, tous les gens qui s'intéressent à l'image, à la bande dessinée par exemple, ils trouveront leur compte conceptuellement. Qu'est-ce qu'une image? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-elle ressentie? Comment est-elle fabriquée? Mais au-delà de ça, je pense que c'est un livre qui s'adresse à un public beaucoup plus large. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit à la lecture de ce texte, c'est que petit à petit, il y a des choses qui émaillent comme ça, qui ne sont pas de l'ordre de l'idée ou de la construction conceptuelle. Par exemple, à un moment, il va, sur un bout de page, sur un bout de ses fragments, il va nous parler de son père, ou il va nous parler d'une femme qu'il a connue, ou d'un événement qu'il a vu, d'une image, d'un vote, par exemple, d'un événement politique. Et petit à petit, ces éléments, on va voir que plutôt que polluer tout simplement sa réflexion, elles vont en venir à l'enrichir. Et ce qui est miraculeux, mais vraiment miraculeux, qui fonctionne, j'ai pas encore pu le tester sur beaucoup de gens, mais d'autres personnes qui l'ont lu m'ont dit la même chose, on a vraiment l'impression d'être dans le cœur d'un cerveau quand on lit ce livre. Et ce n'est pas une simple image. On a vraiment l'impression d'être face à une pensée qui se construit petit à petit. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est un must-have absolu, ce livre.
Alors par contre, ces écrits ont plus de 100 ans, si je calcule bien. Alors comment ça se fait que c'est aujourd'hui que ces textes sont publiés?
Ah, c'est assez compliqué. Déjà, ces textes, par exemple, qui sont des fragments sur l'expression, souvent quand on appelle fragments, quand on reçoit maintenant un texte qui s'appelle fragments, ce sont souvent des textes qui ont été recomposés par un éditeur qui, un peu, pour se faire mousser quelque part, édite ces textes pour dire, voilà, moi aussi j'édite à Bivarbourg. Ici, c'est pas du tout le cas. Ce sont vraiment des texte qu'il a organisé comme tel. D'ailleurs, il avait même payé une copiste pour les recopier et qu'il a, par exemple, qu'il avait renommé de manière différente suivant les années. Je pense que si on les reçoit seulement maintenant, je pense que c'est quand même une pensée qui est assez compliquée. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est très, très, très exigeant, déjà. Je pense que c'est surtout ça. Et puis alors, comme il s'agit de fragments sur l'expression et d'une pensée qui est en construction, c'est extrêmement compliqué à traduire, puisqu'un même terme au début, qui va être investi de plein de notions, de plein de choses, à la fin, il va se retrouver changé, parfois de manière complètement différente. Donc, il y a la difficulté du texte, il y a ce côté fragmentaire qui est assez difficile à lire, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre, ça fait un peu tout. Oui.
La semaine dernière, vous soulignez aussi, Emmanuel Roquette, le travail d'édition de cet éditeur, l'écarquillé, et puis aussi ce travail de traduction.
Ah, c'est pour moi, je parlais la semaine passée aussi de Tipeee Bookshop, qui était pour moi le paradigme de ce qu'un libraire pouvait proposer. Ici, l'écarquillé, c'est la même chose au niveau éditeur. Par exemple, je parlais de ce terme qui pouvait évoluer, qui a évolué entre 1888 et 1905, les termes qui évoluaient. Eh bien, l'éditeur a été jusqu'à réaliser un glossaire évolutif, c'est-à-dire qui reprend le terme qu'on retrouve dans ces 360 pages de fragments et qui en note, tout simplement, qui en détaille l'évolution. Rien que ça, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Et puis alors, il y a aussi une parole qui est donnée au traducteur, ce qui peut paraître un peu traditionnel, mais qui l'est fait assez rarement. Par contre, ici, ça a tout son sens. Donner la parole au traducteur dans un travail pareil, c'est fondamental. Puis la mise en page est sublime, il n'y a pas une faute d'orthographe. Et puis quand on voit le travail aussi, on a d'un côté la langue allemande, de l'autre la langue française, avec des interlignes qui changent. Tout ça pour trouver le juste mot, le juste moyen de traduire une pensée. C'est vraiment un travail... Oui, c'est un travail parfait. Allons-y.
J'aperçois sur votre exemplaire le chiffre 3. Cela veut donc dire que c'est la suite aussi de deux autres livres?
Oui, la volonté de l'écarquiller, c'est de ne pas rester à ce texte-là. Enfin, c'était déjà le troisième, donc il y avait deux premiers textes. Le premier, c'était l'Atlas Mnemosyne, je pense. Et le deuxième, c'est un autre recueil de textes qui s'ancre, si mes souvenirs sont bons, dans une expertise, dans une exégèse de Botticelli. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était ça. C'était vraiment un spécialiste de la Renaissance. Et je pense qu'il y en aura d'autres, je l'espère en tout cas.
Pierre de Jager,
est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter cette bibliothèque qui donc maintenant se trouve à Londres?
Non, jamais. J'ai vu plein d'images qui donnent très 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 envie, mais j'ai jamais eu l'occasion de la visiter.
Apparemment, si je me souviens bien ce que j'en ai entendu dire, elle est aussi assez différente d'une bibliothèque traditionnelle en termes de classification. Et là aussi, elle semble être presque une représentation d'une pensée, d'un cerveau.
Clairement.
Avec presque de l'hypertexte dans la bibliothèque, puisque donc c'est pas une classification par zone géographique, période historique, etc., mais vraiment avec des liens. Le but, c'est que des liens puissent se faire entre des choses de différentes périodes.
Tout à fait. Mais c'était l'essence du travail d'Abi Warburg. Hein. Pour redonner une importance vraiment à l'image, il a fallu non pas montrer qu'elle était capable d'atteindre au concept. L'image ne parviendra jamais à atteindre au concept. Mais ce qui l'intéressait, c'était vraiment la mise en lien et de manière presque universelle, c'est-à-dire de retrouver une sorte de constante par les images entre, l'art des Indiens Hopi et l'art de la Renaissance, de la première ou la seconde Renaissance italienne. Donc, effectivement, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où nous-mêmes, on se met face à ça et on essaie de tisser les liens chacun soi-même, finalement.
Mais apparemment, en termes de science de l'information, c'est tellement différent d'une bibliothèque traditionnelle qu'aujourd'hui, ça pose problème pour la pérennité de cette bibliothèque.
C'est tout à fait vrai. Oui, effectivement, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais bon, ça, c'est le problème de la postérité. Il faut l'affronter aussi.
Abi Warburg, donc, Fragments sur l'expression. C'est le titre de cet ouvrage paru tout récemment, je pense, il y a quelques semaines, à l'écarquillé.
Oui, et ce sont des textes établis et présentés par Suzanne Müller, qui a également établi et présenté les textes en allemand et traduit par Sacha Silberfarb.